Let's do it.
Wanted Radio.
Hit it.
En toute indépendance. Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
Bonjour chers amis, bonjour Samuel.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde.
Et voilà, bonjour, on est au mois de mai, on entend les petits oiseaux. On a offert notre brin de muguet hier. Alors je rappelle que le muguet est une plante toxique, mais qui sent bon. Mais après, il ne faut pas se lâcher les doigts.
Ah, bon ah oui, d'accord, je savais pas ça, toi.
Tu risques d'avoir des ennuis.
Ah,
voilà.
Mince.
Bon 1er mai à tout le monde, bon 2e mai, et bon 3e mai, et ainsi de suite, et toute l'année.
Bon mois de mai, quoi.
Bon mois de mai, voilà. C'est Yavé, en avril, ne te découvre pas d'un fil, et en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ça tombe bien, parce que du coup, je suis allée voir du côté de notre cher ami et mentor Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et alors, il faut que je vous fasse part quand même d'un petit coup de gueule. Vous connaissez la loi ZAN. La loi ZAN, c'est la zéro artificialisation nette qui doit passer juste en 2030, quoi. Et donc, du coup, comme elle est vachement bien, cette loi ZAN, et qu'elle prend en compte extrêmement bien la nature et la préservation des ressources, du cycle de l'eau, des rivières, du sol, de l'air, de la terre, etc., etc., etc. Mais que, du coup, nos amis constructeurs de tout poil, ben, ça les fait un peu de poil à gratter quelque part, et ben, ils ont retoqué la loi ZAN. Ils sont formidables, formidables. Un peu comme pour les JO, vous savez, où ils ont accordé tout ce qu'ils avaient refusé pour la retraite aux policiers et tout ça, pour qu'ils soient là.
Oui. Bah oui, 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 pour tout recasser ensuite.
Voilà, voilà. Donc, du coup, alors, la loi ZAN, puisque certains se sont plaints que c'était trop de préservation d'arbres, c'était trop de territoires naturels laissés comme ça en l'état, c'était trop de rivières pas polluées, c'était trop de terres pas artificialisées, c'était trop, quoi. C'était trop pour leurs petits yeux. Pour leurs petits yeux, c'était trop. Il n'y avait pas assez de béton. Donc, du coup, eh ben, ils ont retoqué la loi ZAN et quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Donc, vous avez les zones tendues en termes de logement, 22 zones tendues, dont fait partie Bordeaux. Et dans ces zones tendues, bien sûr, les projets de logement, eh ben, elles auront des dérogations par rapport à l'environnement, la loi ZAN, etc., etc. Ça sera vachement assoupli, en fait. Et même les recours. Si vous voulez faire un recours, ça sera vachement assoupli. Parce qu'on a besoin de logements pour des gens qui ne sont pas là et qui ne viendront jamais, mais il faut des bureaux vides. Voilà. Donc, du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi des projets d'envergure nationale ou européenne qui sont considérés comme ça. Alors après, qui c'est qui catégorise ces projets comme étant d'envergure nationale ou européenne? Eh bien, on ne sait pas. Il y a une commission qui doit se réunir sûrement et qui doit statuer. Il dit « Ah ouais, ça va être bien pour la France et bien pour l'Europe, donc on les met dans la liste. » Donc vous avez une liste que vous pouvez, que moi je suis allée me procurer sur le site du gouvernement. Une liste avec plus de 450 projets répartis dans toute la France et qui dit merde à la loi ZAN. Mais carrément, hein, qui dit merde, ils lui font un doigt. Voilà, loi ZAN, doigt. Doigt, voilà. Et même deux, et même trois. Voilà, ils sont plusieurs doigts, on te fait un doigt. Donc, sur ces projets, bien sûr, il sera impossible de dire quoi que ce soit. Il sera impossible de dire qu'ils attaquent l'environnement, il sera impossible de dire qu'ils artificialisent les sols. Ils pourront faire leur truc sans même demander trop de dérogations, d'impact environnemental, surtout, même si ça pollue pas, faut regarder ailleurs. Non, non, mais c'est pas grave, parce que c'est nécessaire aujourd'hui, etc., etc. Donc, en fait, c'est Monsieur Christophe Banchu, il a dit amen. Et il a dit amen à plus de 450 projets qui mangent du territoire, qui mettent en qui font risquer le cycle de l'eau et qui mettent en péril le cycle de l'eau, l'arbre, etc. Et notre climat, bien sûr, notre équilibre climatique avec inondation-sécheresse. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'il y a quand même une couille dans le potage, avec le temps qu'on a eu début du printemps, il fait super chaud, et puis tout d'un coup il fait super froid, il fait super chaud, il fait super froid, des inondations partout, Dubaï qui est sous l'eau, la Chine qui est sous l'eau. Donc, bon, là, hein, on peut dire, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, vraiment. Donc, la couverture végétale et les terres nues, c'est-à-dire sans construction aucune et sans béton, c'est la solution. C'est la solution, mais comme c'est une solution qui n'arrange pas tout le monde, n'est-ce pas ? Donc on a fait des doigts à la Loisanne. Alors il y a une petite liste que vous pouvez vous procurer sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il y a deux listes. Il y a la liste 1 avec 167 projets. Voilà, 167 projets, ce qui est quand même assez énorme. Et puis après, vous avez la liste 2 avec 257 projets. Voilà, 257 projets. Alors, au hasard, opération sur l'axe ferroviaire Lyon-Turin, région Auvergne-Rhône-Alpes, 89 hectares. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, alors là, on est en plein dans la schizophrénie totale parce qu'on nous dit qu'il faut moins de voitures, qu'il va falloir moins rouler, qu'on n'a pas beaucoup moins de ressources pour faire plein de voitures, qu'il va falloir penser au covoiturage, au machin, au bidule, etc. Qu'il va falloir mettre les camions sur les trains pour éviter la pollution, machin, etc. Mais on construit une liaison autoroutière A412 de Machilly à Thonon-les-Bains, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Combien d'hectares qui vont être détruits et passés à l'as ? 124. Voilà. Alors bien sûr, dedans, il y a aussi des friches industrielles, des territoires déjà un peu artificialisés, mais il y a aussi des espaces naturels, des alignements d'arbres, des espèces protégées, de la biodiversité à haute qualité environnementale, mais je te fais un doigt, voilà. Donc vous avez plein de trucs comme ça, vous avez route Centre-Europe Atlantique, RCEA, Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, 111 hectares. Allez, aménagement routier RN88, Auvergne-Rhône-Alpes, déviation Saint-Austien et le Pertuis, 44 hectares. Allez, on s'en fout. Centre nucléaire Auvergne, production d'électricité, 220 hectares. Allez, et puis voilà, qu'est-ce que vous avez ? Projet industriel, 13 hectares, c'est pas beaucoup. Centre pénitentiaire de Vannes, en Bretagne, 16 hectares, bon, ça va, c'est pas beaucoup. Vous voyez, ça va aller, mais voilà. Donc ça, ces projets font fi de la Loisanne, hein, je répète. Usine MBDA, fabrication de missiles. Excusez-moi, je ris, mais je ris ironique, quoi. C'est parce que j'ai pas envie de pleurer. Fabrication de missiles Le Subdré, centre Val-de-Loire, 100 hectares. Plus, je suppose, site Céveso, à haute urgence. Centre industriel de stockage géologique, CIGEO. Ah oui, on en parle, c'est pour stocker les déchets nucléaires. Dans le Grand Est, 332 hectares. Donc 332 hectares de stockage géologique de déchets nucléaires qui ne seront soumis à presque aucune loi du code environnemental. Voilà, parce que c'est ça en fait, ces projets, ils sont nécessaires, ils ont dit. Monsieur Bichu et la commission et les gens qui se sont réunis, qui savent mieux que tout le monde que c'est nécessaire, donc ils ont dit que comme c'était nécessaire, eh bien, ils passaient à l'as tous les trucs. Voilà, tous les trucs. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Opération d'intérêt national, OIN. Alors, les opérations d'intérêt national, c'est l'État qui pilote. Donc là, autant vous dire que vous pouvez vous asseoir dessus et vous l'avez bien dans le... voilà, hein, pour les recours, les machins. C'est même pas la peine de réfléchir. C'est même pas la peine de dépenser vos sous dans un avocat. Grand test, 70 hectares. Voilà. Opération d'intérêt national d'Alzette-Belval. Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire dessus, hein. Mais c'est d'intérêt national. C'est un peu comme Euratlantique, qui est une opération d'intérêt national et qui a fait que des bureaux, alors qu'on a besoin de logements, mais qui a 50% de bureaux qui sont vides et de parking pour garer les voitures des gens qui devraient venir en mobilité, puisqu'il y a le tram et tout ça. Donc, voilà. Donc, mais à part ça, c'est pour loger des gens. Hein. Donc, ça aussi, détournement de discours, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir encore ? Allez, dans le menu de ces...
Valérie, allez.
Canal Seine Nord-Europe, liaison fluviale Compiègne-Aubenchal-Aubac, dans les Hauts-de-France, 855 hectares. Voilà.
855 hectares.
Voilà. Grand port maritime de Dunkerque. Allez, 718 hectares. Allez, qui dit mieux ? Encore un aménagement routier, voilà, parce que la voiture est encore mais au centre de toutes les préoccupations de nos chers ministres. Aménagement routier RN2, Maubeuge, Asven, Laon, Asven et Paris-Soissons dans les Hauts-de-France, 246 hectares. Bien sûr, si vous voulez la liste, vous écrivez à moi-même, valerie.bernet@wanted-media.fr. Voilà, tiré média, on le mettra et je vous l'enverrai facilement parce que si vous entendez votre nom. Alors, et nous y sommes, bien sûr, nous y sommes. Oh là là, voilà, on arrive à la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est chez nous. Donc, je vous fais la petite liste de la Nouvelle-Aquitaine et qu'est-ce qui nous pend au nez. Donc, bien sûr, le grand projet ferroviaire du sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, 740 hectares, mais ils ont minimisé, c'est beaucoup plus. Mais tout d'un coup, ça a diminué, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait un captage de photos, et un peu comme les promoteurs, c'est-à-dire l'avant-après. Vous avez le truc avant et après, ils vous vendent sur photo les appartements après avec les beaux arbres, etc., le jardin, la famille aux dents blanches qui sourit, qui pique-nique sur le dent, tu sais, devant, etc., avec oui. Les enfants qui courent, madame qui est heureuse, monsieur qui est détendu et qui regarde son téléphone et tout ça, etc. Enfin, la famille idéale. Donc, ils nous ont fait un peu la même chose, la SNCF, là, parce qu'ils ont qui commence à avoir chaud aux fesses et à se dire oui, c'est vrai quand même que ça mange un peu de terre et ça va polluer beaucoup. Donc ils nous ont fait un captage de trucs et les gens qui y habitent ne savent pas comment ils vont faire. En fait, ils ont rajouté sur... alors, vous allez voir les photos. Alors, vous avez des... Le tram, moi je le prends. Au vu des photos, moi je le prends.
Ah oui ?
Ah ouais, non mais c'est sûr. Parce que ça traverse mais des paysages de dingue avec des arbres partout. Des arbres partout. Mais des forêts immenses, majestueuses. J'ai jamais vu ça. Mais c'est un truc, c'est beau, quoi. Tu te dis, là, tu te mets là devant, machin, et tu visites, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, en fait, qui se passe, déjà. Alors déjà, un, ça fragmente le territoire en deux. Donc nous, pour qu'on puisse gagner 15 minutes de notre temps d'écran... Eh bien, on va empêcher la circulation de tous les animaux puisqu'on coupe les territoires en deux, plus les habitants de villes, parce qu'il y a certaines villes comme Saint-Médard-des-Rangs qui sont carrément coupées en deux. Les gens, ils vont être obligés de faire 10 km pour aller voir maman qui est de l'autre côté du village. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a plein d'arbres qu'ils doivent abattre. Enfin, j'espère qu'ils vont arrêter de faire cette gabegie, mais voilà, qui vont abattre et qui sont des chênes centenaires. Et tout d'un coup, sur leurs images, ils sont là, ces chênes. C'est fou, c'est magique. Tu vois, on dirait c'est Panoramix, tu sais, le druide qui plante des graines et les arbres, ils poussent tout d'un coup. Et bien là, GPSO, elle fait ça. Des arbres centenaires qui ont 200, 300 ans et qui sont là et qui vont être abattus, et bien tout d'un coup, vous les retrouvez sur ces images, comme par exprès. Ou alors, ils ont vachement anticipé dans l'avenir, c'est-à-dire qu'ils pensent que dans 300 ans, il y aura toujours le projet ferroviaire GPSO. J'ai dit, Monsieur Rousset voit loin dans la postérité. Donc, alors après, donc, nous avons le projet... Alors non, parce que là, nous en avons des pas mal, ici, sur la Nouvelle-Aquitaine. Hein, je veux dire qu'on a été gâtés. Alors, il faut vous dire qu'on est en zone tendue, nous, hein, sur Bordeaux. Donc, logement, 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 recours dans ton cul, ZAN dans ton cul, et loi de code environnemental, dérogation espace protégé, dans ton cul. Voilà. Donc, pour faire clair, soyons clairs. La radio, Wanted Radio, c'est une radio de transparence. Clair. Donc, nous avons le grand projet, 740 hectares. Ensuite, nous avons la zone d'activité économique, latitude dirigeable, 75 hectares. Alors, c'est quoi ce truc ?
Oui, c'est quoi ça ? Parce que...
Alors, ce truc, c'est qu'il y a un mec qui a inventé un truc formidable, c'est qu'il a inventé, il va construire des dirigeables.
Mais... C'est une blague.
Non. Il va construire des dirigeables alors pour faire des transports dans des milieux pas accessibles par les routes, c'est-à-dire que les milieux, les espaces naturels qui sont préservés de par le fait parce qu'on ne peut pas y accéder par la voie routière vont être du coup plus préservés de par le fait puisqu'il y aura des dirigeables qui vont venir se poser dans des forêts majestueuses pour aller piquer le bois et dégrader tout partout. Ils sont fortes. Non, mais il ne faut pas dire ça. Donc, des dirigeables à la Ruscade, à 40 km de chez nous, sur un territoire d'espace naturel avec des forêts magnifiques, etc. Il faut se rendre compte quand même que c'est 75 hectares. Les dirigeables, c'est presque des mini-tours Eiffel. Donc, les bâtiments qui vont être construits, c'est presque des mini-tours Eiffel. Tu te rends compte, en question de paysage, pour boucher la vue ? Ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, encore une idée à la con, trouvée par des gens qui veulent faire du profit sur la nature, encore une fois, et qui vont se casser la figure, encore une fois, parce qu'à un moment donné, la nature, elle va fermer le robinet, et puis elle va dire, eh bien, écoute, va voir ailleurs si j'y suis, et elle aura bien raison. Alors, donc, on a le GPSO, la zone d'activité économique pour construire des dirigeables. L'aménagement routier RN147, Lussac-les-Châteaux, 80 hectares. L'aménagement routier RN147, Limoges et partie entre Bellac et Limoges, 118 hectares. L'aménagement routier RN141, Angoulême-Limoges, 158 hectares. Le Grand Port maritime de Bordeaux, ME, 29 hectares. Alors, ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, il faut que je vous en parle. Il y a une entreprise qui fabrique, je crois, ou qui stocke, je sais pas, il faut fabrique, stocke. En tout cas, elle aura du nickel et du cobalt. Voilà, ça c'est sûr. Et du coup, elle veut installer son entreprise, sa société, sur le grand port maritime de Bordeaux. Les communes ont pacté, c'est Blanquefort, Parampuire et Ambarès. Seulement, elle le plus l'interdit parce que c'est une zone inondable. Alors, mais que ça ne tienne, ce n'est pas grave. On va lancer une grande concertation pour modifier le PLU. Donc, en ce moment, vous avez une grande concertation du public pour demander à ce que le PLU soit modifié pour que cette entreprise, qui est une entreprise quand même avec, qui sera Céveso, c'est-à-dire risque pollution, dangereux, machin, bidule, etc., puisse se construire sur 29... hectares d'espace naturel du grand port maritime.
Zone inondable.
Zone inondable, en sachant que c'est vrai en ce moment, les inondations...
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas et ça ne craint pas.
Non, mais ce qui est formidable quand même, c'est qu'imagine, ils réussissent à modifier le PLU.
Oui.
La zone inondable, elle sera toujours inondable.
Ben oui, mais bien
donc,
sûr.
Donc une fois, parce que maintenant les inondations sont tellement nombreuses que, on va dire... Une fois tous les deux mois, les hangars seront, enfin l'entreprise sera sous l'eau.
Donc, ben oui, et le nickel va se déverser dans la Garonne et va polluer tous les affluents de la Garonne et l'eau des Bordelais, parce qu'il faut dire aussi que les Bordelais aussi boivent l'eau de la Garonne.
Tu vois ? En plus de ça, tous les deux mois, les mecs seront au chômage technique parce que.
Et oui, et personne n'ira en prison, les responsables.
Non.
Ben non, pour grand crime écocidaire de l'humanité, machin, etc. Qui c'est qui va être responsable ? Ceux qui ont fait changer le PLU, ceux qui ont signé. Alors, c'est bien sûr, c'est un projet d'État. C'est un projet politique par l'État.
Quoi.
Donc, c'est l'État qui est responsable. Et, on sait bien que dans l'État, il n'y a aucun responsable. On l'a bien compris. depuis le confinement, qu'il n'y a pas de responsable. Bref, donc voilà, vous avez ce grand projet qui est quand même un projet hyper risqué, où le monsieur qui fait ça, c'est une entreprise étrangère, je ne sais plus, je crois qu'elle est suédoise ou etc., et qui dit, vous inquiétez pas, dans sa lettre d'intention, vous inquiétez pas, on va tout faire pour qu'il n'y ait rien qui craint. Tu sais, c'est les mecs de la Tour Infernale qui disaient ça. Tu sais le film La Tour Infernale, ils disaient ça.
Oui.
On est un peu... À Titanic aussi, ils disaient ça au départ. Ils disaient, vous inquiétez pas, c'est le bateau le insubmersible, ça craint pas. Et on voit le résultat quand même, que ça s'est passé. Quoi. À Fukushima aussi, ils étaient hyper persuadés que ça craignait pas. Et puis raz-de-marée et machin. Donc voilà. Voilà ce qu'on nous a... Alors après, vous avez encore le grand port maritime de Bordeaux, GH2, 72 hectares. Le programme Scorpion, zone technique, 3 hectares. L'opération ministère des Armées, 16 hectares. La station de conversion électrique façade Atlantique Gilles-Assud, 10 hectares. Le poste de raccordement façade Atlantique Gilles-Assud, 5 hectares. La station de conversion interconnation France-Espagne, 5 hectares. Parce que vous savez qu'il y a RTE qui veut faire passer un grand câble électrique de l'Espagne jusqu'à chez nous, qui est en train de du coup saccager les plages du côté d'Ossegor, etc., les dunes, les forêts, tout ça, pour faire passer son grand câble, qui va électrifier tout Bordeaux Métropole. Bien.
Non, parce qu'on est obligé maintenant d'acheter de l'électricité là en Espagne.
Mais écoute, au prix où ça coûte. mais je sais pas. Écoute, moi, centre pénitentiaire de Pau, 6 hectares. Pas beaucoup. Ils n'auront pas beaucoup d'armes chez eux. Aménagement routier, contournement... Ah voilà, et on passe en Normandie. Alors là, pas mal quand même. Aménagement routier, contournement est de Rouen, A28, A13, A133, A134. Encore tout pour la bagnole, 470 hectares. Voilà. Donc, vous en avez comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire ça,
plein,
c'est
plein.
167 projets.
Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!
Mais si possible. Et après, vous avez, pareil, projet d'envergure, machin, enfin, je sais pas quoi vous dire, messieurs, dames. Alors, tout le monde dit on marche sur la tête, mais là, on marche même plus sur la tête. On est enterré à 6 pieds sous terre, là, moi, je vous le dis, quoi. Je veux dire que. C'est, ou alors, c'est, je sais pas, c'est des grands schizophrènes, je sais pas. Ou alors, ils ont, je sais pas, on dirait que leur main ne fait pas la même chose que leur cerveau, ou que leur bouche, tu vois, leur bouche doit être déconnectée de leur main, c'est-à-dire leur bouche dit un truc et leur main signe autre chose. Hop, et voilà, hop, tu vois, ils sont dissociés en fait, je sais pas. C'est des trucs de fou, donc rappelez-vous tout ça, et surtout, moi je tiens à vous dire que rappelez-vous qui était en 2023, 2022, 2023, 2024, 2025, qui était au gouvernement, qui était au ministère de la transition écologique, de la transition des territoires, et tout ça, il faut se souvenir. Il faut se souvenir de ces gens. Donc, après cette très belle connerie, on va mettre un petit... on va retourner chez nous. On va mettre une petite musique pour apaiser pour le deuxième sujet.
C'est lequel que je mets comme...
Nana, oui, tu mets Nana. Mets-nous Nana.
Allez.
Le ciel est plein bleu à Paris. Amis, l'hiver est à l'envers. Le temps retourne bas dehors. Le monde est en chamaille. On gèle au sud, on sue au nord.
Fais du feu dans la cheminée. Je reviens.
Seine a repris ses vins belges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frima sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Ami, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerveau, et je ne veux pas être seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop rusé, on hibernera. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager.
Eh bien, revenons chez nous. Merci Nana. C'était Nana Mouskouri. Et puis, revenons chez nous à des choses un peu plus, on va dire, pragmatiques et un peu plus sensées, qui fait du vert. Parce que, avant cette petite interlude musicale, on parlait bien sûr de tous les projets qui nous mettent le ZAN dans le cul, que vous pourrez retrouver si vous m'envoyez un petit mail ou vous voulez savoir, avoir la liste complète, parce que ça arrive chez vous. C'est sur toute la France. Il n'y a pas de jaloux, ne vous inquiétez pas. Où que vous soyez sur la France, vous allez avoir un projet où tu peux te mettre la loisane dans le cul. Comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. On vous le donnera. Et donc, on va parler des mauvaises herbes. Alors, parce que souvent, on entend parler de la mauvaise herbe. Moi, je le vois sur les réseaux, etc., sur Instagram et tout ça. Si vous voulez enlever vos mauvaises herbes des jardins, les mauvaises herbes sur les trottoirs, les mauvaises herbes, etc. Et je voudrais remettre les pendules à l'heure et les choses à leur place et dans leur contexte. Les mauvaises herbes, comme les mauvais insectes, ça n'existe pas. Voilà, il faut être bien clair sur ça. Les mauvais quelque chose de la nature, ça n'existe pas. C'est nous qui avons inventé ça dans notre cerveau pour dire que cette herbe-là nous dérange parce qu'elle est sur les pavés de l'allée et que ça ne fait pas propre, ou elle dépasse de la pelouse de golf et ça ne fait pas nickel et ça ne fait pas cadré et aseptisé. Et les insectes, c'est pareil. Les mauvais insectes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais insectes, il n'y a pas même ceux qui mangent les cultures, même ceux qui tuent les arbres, parce que ça existe aussi, les xylophages, etc. Ça n'existe pas, les mauvais quelque chose, dans la nature. Il y a toujours un but, il y a toujours une information, il y a toujours une cause. Et souvent, la présence de ces mauvaises herbes, comme vous les appelez, ou de ces mauvais insectes, ça donne une information sur ce qui se passe sur le territoire. Donc si on avait l'intelligence et surtout l'humilité d'observer ce qui se passe sur un territoire avant de phytoxer ou de brûler tout à la chaux ou à la kalachnikov pour les mauvaises herbes avec le glyphosate et machin, etc., eh bien on s'apercevrait que ces mauvaises herbes, parce qu'il n'y en a pas de mauvaises herbes, que ces herbes qui dérangent, qui nous dérangent à nous, et que ces insectes qui nous dérangent à nous, elles sont en train de nous dire quelque chose. Elles ont une information à nous donner. Alors, je vous rappelle la définition. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Je ne veux plus entendre mauvaises herbes. C'est fini. C'est clair, c'est en plus, j'ai vu en préparant ce sujet qu'il existe une science qui s'appelle la malherbologie, je ne sais pas quoi, la science de la mauvaise herbe. C'est comme s'il y avait une science des mauvais élèves, quoi. Il y a les mauvais élèves et les bons élèves. Mais qui dit ça ? C'est qu'à un moment donné de ta vie, le prof, il n'était pas en contact avec toi ou tu avais un truc, un passage à vide. Et tout d'un coup, il a décrété que tu étais mauvais. Et puis, 2 ans après ou 1 mois après, paf, voilà, tu exploses ton potentiel et tu deviens président des États-Unis. Non, c'est un mauvais exemple. Mais tu deviens, je ne sais pas moi, super capitaine d'industrie ou une super capitaine d'industrie et tout simplement la planète parce que tu as trouvé le remède du cancer. Et tu dis, ah, mais quand j'étais jeune, j'étais une mauvaise élève. Qui peut dire ça ? C'est à un moment donné, tu déranges quelqu'un, donc du coup, il te catalogue mauvais. Voilà. Donc, ça n'existe pas. Donc, je vous interdis de dire que c'est des mauvaises herbes ou des mauvais insectes. Soyez honnête et arrêtez l'hypocrisie. Et vous dites, voilà, c'est une herbe qui me dérange. Je la trouve pas jolie, ça fait pas net dans mon jardin, donc je la phytoxe. Voilà, soyons clairs, soyons clairs. Donc, définition d'une mauvaise herbe, plante, définition humaine, bien sûr, hein. Plante, herbe qui nuit aux autres cultures. Mais qui nuit par rapport à qui ? C'est ça. Quel est le cadre de référence ? Elle nuit, mais par rapport à qui ? On est toujours le con de quelqu'un, et la mauvaise herbe, c'est notre con à nous. De général. Voilà, on dit elle nuit par rapport à une culture. Mais qui c'est qui dit qui est, toi ? Et quelle culture ? Voilà, bon, bref. Donc, nuit aux autres cultures. Une mauvaise herbe est une plante accompagnant spontanément des cultures. Donc, si elle pousse à cet endroit-là exactement, ça veut dire que dans le sol, des conditions, que ce soit climat, chimie du sol, ressources en eau, et environnement sont réunis pour qu'elle pousse. Donc cette herbe qui vous dérange, elle est en train de vous donner une information. Il faut la regarder, il faut l'écouter, il faut se dire mais pourquoi elle pousse là, à ce moment-là ? Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc dans mon sol qui ne va pas bien. Si je ne la veux plus, il faut que je transforme mon sol. Voilà. Donc, une mauvaise herbe est une plante accompagnant spontanément des cultures arables, des prairies ou des jardins. Les mauvaises herbes, des adventices, ne sont pas cultivées volontairement et proviennent par transport de graines qui se développent. Le contrôle s'effectue par désherbage. Voilà, c'est bien une définition humaine. Le contrôle des mauvaises herbes s'effectue par désherbage. On est toujours dans le contrôle, nous. Jamais toujours contrôle. Les plus connus, donc, des mauvaises herbes de nos jardins, enfin des herbes qui nous dérangent de nos jardins, sont le chiendent et le liseron, entre autres. Mais vous en avez d'autres. Vous avez aussi, par exemple, la renouée du Japon, qui est l'ambroisie, le pissenlit. Le pissenlit est considéré comme une herbe qui dérange, qui nous dérange. Moi, j'ai des pissenlits dans mon jardin, je trouve ça super et tout. En plus, tu peux les manger, tu vois. Et puis, tu as bien l'expression « manger les pissenlits par la racine ». Donc, ça se mange, les pissenlits. Les orties, alors que les orties, ça a des vertus médicinales, mais de dingue. Vous pouvez faire des soupes d'orties, des salades d'orties. Et puis, c'est bon, vous n'êtes plus jamais malade. Les gopodes, le liseron, le mouron blanc, le chanvre d'eau, la carotte sauvage, le plantain lancéolé, le chardon des champs, et les ronces. Alors les ronces, bien sûr, les ronces, c'est vraiment le top du délit de sale gueule. Dès qu'il y a des ronces, il faut couper, parce que ça pique. ça pique. Mais les ronces, c'est des mûres, c'est des framboises sauvages, c'est des refuges pour des petits animaux comme des lézards ou des petits mammifères, etc., des oiseaux. Enfin, c'est tout un habitat formidable. Ça fait des fleurs, c'est très mellifère, donc ça fait des fleurs aussi pour les abeilles en début de printemps. Et s'il y a des épines, c'est que pour empêcher des connards d'aller quelque part. Donc s'il y a des ronces, c'est parce que la nature, elle ne veut pas que vous alliez plus loin. Plus loin. Voilà. Donc il faut respecter. Voilà. Quand on vous ferme la porte au nez, eh bien, il ne faut pas pousser la porte. Quand un ami ou quelqu'un vous dit non, tu ne rentres pas chez moi, ben, vous insistez pas, vous rentrez pas. Mais voilà, si vous avez des ronces quelque part, ça veut dire ben là, tu passes pas. Là, c'est une zone préservée. J'ai pas envie que tu y mettes les pieds. Mais non, nous, on fait pas ça, on prend pas. Voilà. Donc, on appelle ça des mauvaises herbes ou des adventices. Alors, des adventices en agronomie, le mot désigne une plante herbacée qui se trouve dans un agro-écosystème sans y avoir été intentionnellement invitée. Même les définitions, il n'y a rien à rajouter. Rien que les définitions, elles nous disent bien qu'on les qualifie de mauvaises parce qu'elles nous font chier à nous. Mais à la nature, si elles sont là, c'est qu'elles ont le droit d'y être, surtout, et qu'elles ont un rôle à y jouer, et qu'elles ont une information à nous donner. À nous de décrypter l'information. Alors, on va dire, mais oui, qu'est-ce que, par exemple, la renouée du Japon, elle fait quoi? Alors, la renouée du Japon, au niveau pharmaceutique, thérapeutique, elle est diurétique. Elle permet d'éliminer l'eau, ramollit les selles et lutter contre la constipation occasionnelle, diminue la tension, stoppe le saignement, booste le système immunitaire. Elle peut servir de fourrage et elle est très mellifère. Abattre, alors si vous voulez lutter contre la renouée, il faut arrêter d'abattre les arbres parce que les arbres occupent le territoire et du coup la renouée ne peut pas l'occuper. Donc c'est soit les arbres, soit la renouée. Voilà. Le chanvre d'eau par exemple, il est riche en oméga 3, en vitamines, en minéraux, il est source de protéines végétales, il est riche en antioxydants pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et on appelle ça une mauvaise herbe. Moi, je dis, c'est un truc à avoir dans sa pharmacie. Le liseron, fébrifuge, ça veut dire qu'il réduit les fièvres et il combat les spasmes. Voilà. Son bienfait est surtout bio-indicateur. Alors, c'est quoi un bio-indicateur? C'est ce que vous expliquez. Si vous avez, entre guillemets, une fleur qui vous dérange, une herbe qui vous dérange, il faut que vous posiez la question, pourquoi elle a poussé là? C'est que les conditions sont réunies pour qu'elle pousse là. Donc, ça veut me dire quoi? Cette fleur me dit quoi? Elle est bio-indicatrice, elle est en train de me donner une information sur mon environnement, sur mon sol. Alors, un bio-indicateur est un organisme dont la présence ou l'état renseigne sur certaines caractéristiques écologiques, microclimatiques, biologiques, pédologiques, c'est le sol, biochimiques, etc. Voilà. Donc, il faut observer. Et alors, comme plante bio-indicatrice, vous avez la renoncule rampante, qui indique votre état du sol, par exemple, engorgement. Si vous avez des renoncules rampantes chez vous, vous avez le sol qui est engorgé en eau et en matière organique. C'est-à-dire que vous avez un sol où il y a trop d'eau ou trop de matière organique et un sol trop compacté, par exemple. Le mouron blanc, donc, qui est une herbe qui dérange, alors que c'est très joli, ça fait des petites fleurs blanches et tout. Donc, habitat naturel, lisière et clairière forestière. Et indication sur l'état du sol, cette plante annuelle signale une terre équilibrée. Voilà! C'est la légion d'honneur du potager. Donc, ne l'enlevez pas. Voilà! Si vous en avez dans votre jardin, soyez fiers de vous. Ça veut dire que votre sol, il est équilibré. Mais c'est génial! Que tout le monde ait du mouron blanc chez soi. L'ail des maraîchers. Alors, l'ail des maraîchers, quelle est sa bio-indication? Il indique que sur l'état du sol, il y a des carences réelles ou induites en potasse, bloquées par le manque de vie microbienne. Qu'il y a un compactage des sols, riches en calcaire, à pH souvent élevé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez de l'ail de maraîcher qui pousse dans votre jardin, eh bien, il vous manque de la potasse dans le sol et vous n'avez pas beaucoup de vers de terre, de vie microbienne. Vos sols ne sont pas riches ni fertiles et ils sont trop compactés. Donc, et du coup, vous améliorez vos sols dans le sens de la bio-indication que vous fournit l'ail des maraîchers et vous verrez que la saison prochaine, vous n'aurez plus d'ail des maraîchers, mais vous aurez du mouron blanc, un sol équilibré. Donc, s'il vous plaît, avant de dire que c'est une mauvaise herbe, posez-vous plutôt la question, pourquoi c'est là ? Comment ça se fait que ça pousse dans mon jardin ? Comment ça se fait que ça pousse sur mon trottoir ? Comment je fais pour y remédier ? Peut-être que, comme au lieu de mettre du sel, de l'acide, des trucs dégueulasses, etc., qui polluent le sol, eh bien, tant qu'à mettre de l'herbe, et mettant de l'herbe fleurie, ça fait joli. Voilà. Et une fois que vous avez l'information, eh bien, rééquilibrez votre jardin. Et comme ça, vous n'aurez plus de fleurs qui vous dérangent, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais on est... voilà. Donc, je voulais rendre hommage à toutes ces herbes qu'on appelle mauvaises herbes, comme le chardon, comment, par exemple, ou le liseron. C'est super beau, le liseron. Moi, j'adore le liseron, j'en ai chez moi. Et ça fait très joli. Le grand plantain. Qu'est-ce qu'il fait, le grand plantain ? Il vous indique un tassement et un compactage provoquant l'anaérobiose des sols. Piétinement du bétail dans les prairies surchargées ou piétinement des populations dans les parcs surpeuplés. Comme ici chez nous. Le liseron, justement. On va finir avec le liseron. Et après, je vais vous passer un petit... c'est une petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Là, vous allez juste entendre la personne. C'est une entreprise de sensibilisation aux plantes sauvages qui s'appelle les Chemins de la Nature. Ils ont un site, vous pouvez faire des formations justement de cueillette de plantes sauvages et de comment les cuisiner et comment en faire aussi des baumes, etc. Donc c'est très bien fait et donc on passera ça juste après. Ça, le liseron des haies, il vous indique que la terre est asphyxiée par trop de matière organique et d'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaie de drainer son sol et on met moins de matière organique. Et comme ça, vous aurez plus de liseron l'année d'après. Mais c'est formidable. Il faut observer. Il faut observer. Avant de détruire, nous, on arrive, on dégomme tout et après, on se dit « Ah, merde !» et on cherche les réponses. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut arriver, regarder, trouver les réponses et après, si besoin, on dégomme. Mais souvent, on n'a pas besoin de dégommer. Mais on est des gros cow-boys, nous. On est des gros cow-boys, on écrase tout. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous servir à avoir les herbes qui vous dérangent comme des herbes qui vous dérangent et non comme des mauvaises herbes. Que vous éviterez à l'avenir de dire que c'est des mauvaises herbes parce que ça n'existe pas. Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais élèves, ni mauvais insectes. Et pour finir, eh bien, écoutons ce qu'a à nous dire justement les Chemins de la Nature sur les mauvaises herbes. Je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite un joli mois de mai. Ciao!
Bonjour chers amis, dans cette vidéo, je voulais vous parler des mauvaises herbes qui sont en fait des bonnes herbes la plupart du temps au jardin. Donc je suis dans un jardin pour illustrer ça. Ce sont en gros les mauvaises herbes, des plantes qui vont pousser alors qu'on ne le souhaite pas. Dans un jardin, bah, on veut planter des légumes, des herbes aromatiques, des plantes ornementales et on ne veut pas forcément qu'il y ait des plantes qu'on ne connaît pas. Donc généralement les gens qui appellent une plante mauvaise herbe, ils l'appellent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas son nom, ni ses usages, ni les utilités par rapport à l'écosystème, par rapport à la biodiversité. Vous êtes sur la chaîne YouTube du Chemin de la Nature, on est une école de la nature, on propose des formations sur le terrain et des formations en ligne pour apprendre à connaître les plantes et les champignons et leurs usages, donc botanique, herboristerie, cueillette, cuisine, etc. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Cette notion doit dater d'environ 10 000 ans, finalement le début de l'agriculture, le moment où les humains voulaient cultiver des espèces en particulier. Mais avant cette époque, ils mangeaient les plantes sauvages, donc elles étaient tout sauf mauvaises. Sauf éventuellement les toxiques qui ont tué certains. Aujourd'hui, pour être moins péjoratif, on utilise aussi des termes comme herbe folle, adventice ou encore plante sauvage tout simplement. Il peut y en avoir des dizaines et des dizaines, et plus il y aura des gestions différentes dans votre jardin, hein, plusieurs endroits avec des gestions différentes, plus il y aura d'espèces. Par exemple, des endroits où ça va être un peu labouré, d'autres où il y aura du compost, d'autres où vous allez tondre régulièrement, etc. En apprenant à connaître ces espèces, vous allez aussi savoir quelles ampleurs elles vont prendre, quelle taille elles vont prendre, et est-ce qu'elles vont recouvrir ou est-ce qu'elles vont prendre beaucoup de place ou non. Donc vous allez pouvoir aussi gérer celles que vous allez laisser en grande quantité, celles que vous allez laisser juste une petite quantité. Voilà, c'est une façon de savoir si vous voulez tout enlever ou juste une partie. Sachez que dès que vous allez laisser une surface à nu, il va y avoir des plantes qui vont arriver. Donc un autre moyen d'en avoir un peu moins, des plantes sauvages, hein, c'est de mettre un couvre-sol, que ce soit un paillage, que ce soit des copeaux de bois comme ici. Il y en aura moins, il y en aura quand même, mais il y en aura moins. Et pour information, et c'est la spécialité du chemin de la nature, la plupart de ces mauvaises herbes sont en fait des bonnes herbes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent comestibles et ou médicinales. Donc là par exemple, on en a une bien connue, le lierre terrestre, qui est une plante aromatique délicieuse de la famille des Lamiacées, qui est la même famille que la menthe ou que la mélisse. C'est une plante vraiment délicieuse, hein, qu'on peut faire en sucré, en salé, en pesto, pour mettre sur des poêlés de champignons par exemple, faire des boissons, aromatiser des crèmes dessert, bref, un régal. Qui a des petites feuilles en cœur, crénelées on dit, et un petit peu velues. Et quand elle sera en fleur, elle ne va pas dépasser 20 cm. Ça c'est bon à savoir, donc si elle pousse comme ici, dans un endroit de plante ornementale plutôt haute, elle ne va rien déranger, ça va être très joli, ça va faire un petit parterre avec des petites fleurs violettes vers le mois d'avril. Voilà, ça gêne personne, ça sera très intéressant aussi pour la biodiversité, ça donnera de la nourriture pour les insectes, un bonheur pour les yeux, quoi. Et en cuisine également. En plus d'avoir des usages, ces plantes sont bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles vont nous indiquer l'état du sol. Par exemple, le lierre terrestre indique qu'il y a une bonne acidité globalement pour la plupart des plantes, mais qu'il y a trop de matière végétale en décomposition par rapport à ce que les micro-organismes peuvent manger. Si on en avait moins, les plantes pourraient mieux pousser. Donc ça donne des idées aussi de comment améliorer la qualité de son jardin, de son potager. Et comme je disais, ces adventices couvrent le sol là où il est nu. Ça va donc éviter ce qu'on appelle l'érosion du sol, c'est-à-dire de la perte de sol, par exemple par des coulées de boue dans les rivières et les fleuves. Et comme toutes les plantes, elles utilisent le CO2 de l'air et en se décomposant, elles donnent de la nourriture aux micro-organismes du sol et donc enrichissent les sols. Me voici avec trois plantes très communes dans les jardins. Le pissenlit, qui va avoir des feuilles bien pointues, lobées, un latex blanc et qui est comestible délicieux. On peut manger ses racines, ses feuilles, ses inflorescences en boutons et ses fleurs. C'est un régal. C'est une plante qui va indiquer que le sol est assez riche en nutriments. Donc c'est un bon sol finalement pour cultiver des plantes. En plus, l'avantage du pissenlit, c'est qu'il ne monte pas haut, un maximum 20 cm, avec sa hampe florale typique qu'on connaît bien. Une autre plante assez commune, c'est la cardamine hérissée, qui va être aussi une toute petite plante qui ne va pas dépasser 10-15 cm, qui a une bonne odeur de cresson et qui se mange comme le cresson, cru ou cuite. Très sympa, sur du fromage blanc, dans une salade, voilà, très agréable. Assez facile à identifier avec ses petites feuilles composées de plusieurs folioles et ses toutes petites fleurs blanches à 4 pétales en croix. S'il y en a beaucoup, elle indique que les matières mortes se décomposent vite et qu'il manque donc de la matière à décomposer pour stabiliser le sol. Une autre plante assez commune, c'est la vergerette du Canada. Une bonne plante comestible, un peu piquante, aromatique, très agréable, qu'on peut manger crue ou cuite, et qui est aussi utilisée en médicinal pour aider à éliminer au niveau rénal un diurétique et un peu anti-inflammatoire, donc pour les douleurs ostéo-articulaires, c'est pas mal. Voilà, c'est une plante pas si facile à identifier quand elle est en touffe, mais bon, on s'y fait parce qu'elle est tellement commune qu'on la voit, on la revoit et au bout d'un moment, on la connaît. C'est une plante qui va aussi indiquer qu'il n'y a pas assez de matière organique en décomposition dans le sol et que le sol est souvent un peu tassé. Par contre, celle-ci, sachez qu'elle va grandir et mesurer parfois jusqu'à 2 mètres. Donc, s'il y en a beaucoup et que vous ne voulez pas qu'elle recouvre tous vos plates-bandes, vous pouvez en enlever un peu quand même. Une autre plante très commune, très connue des jardiniers et des agriculteurs, c'est la patience à large feuille ou le rumex obtusifolius, rumex à feuilles obtuses. On l'identifie avec ses feuilles sans poils déjà et avec ses lobes là, qui ont des bons gros lobes. Et quand elle est en fruit ici, c'est facile aussi de l'identifier. Ça va faire des petits fruits polygonaux. D'ailleurs, elle appartient à la famille des polygonacées, donc avec trois faces, comme le sarrasin. Alors, c'est une plante comestible. On peut manger le pétiole quand il est un peu plus gros que ça au printemps. C'est un délice, c'est acidulé. On peut faire la même chose qu'avec la rhubarbe. Et on peut aussi manger les graines. C'est une plante à manger avec modération parce qu'elle contient de l'acide oxalique qui peut être néfaste pour les reins. Donc, si on a des problèmes de reins, il faut l'éviter. Et aussi, si on a des problèmes de douleurs ostéo-articulaires type rhumatisme, il vaut mieux l'éviter. Calcul rénaux également. Quand il y en a beaucoup, c'est une plante qui va indiquer un excès de fertilisant et de tassement du sol, donc un problème pour la vie des micro-organismes du sol, mais aussi pour les plantes. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez approfondir les connaissances sur ces plantes en particulier, faites des petites recherches sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. On a plusieurs vidéos et des articles sur ces plantes, hein, lyrterès, bergerette, rumex, obtusifolius, etc. Le pissenlit aussi, bien sûr. Et si vous voulez approfondir encore plus, on propose, comme je vous disais, des formations sur le terrain et des formations en ligne. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et puis à mettre un petit j'aime à la vidéo et à la partager, ça nous soutient beaucoup. Ciao, ciao!
Wanted Radio, première sur la nature en ville.